RFI 20h à Paris, 19h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une, la journée internationale des droits des femmes et des manifestations un peu partout dans le monde. Nous irons en Argentine avec notre correspondant Théo Conscience, l'Argentine dont le président Javier Milei attaque le mouvement féministe. En Syrie, 532 civils de la minorité religieuse alaouite ont été tués depuis jeudi par les forces de sécurité syriennes et leurs alliés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des forces de sécurité déployées pour combattre des fidèles du président déchu Bachar al-Assad. En Allemagne, les conservateurs du futur chancelier Friedrich Merz ont annoncé un accord de principe avec les sociaux-démocrates du SPD. On se dirige vers un nouveau gouvernement de coalition. Et puis rugby, la France passe à la première place du tournoi des 6 nations. Avec sa victoire sur l'Irlande, 42 à 27. Ce 8 mars 2025, journée importante, journée de manifestations un peu partout dans le monde pour la Journée internationale des droits des femmes. En France, 120 000 personnes ont manifesté à Paris et 250 000 en région. Niveau mot d'ordre, il y avait de quoi faire entre les inégalités salariales qui persistent, les féminicides et la montée du discours masculiniste. En Espagne, à Madrid, plusieurs milliers de personnes ont manifesté sous une pluie battante pour réclamer une égalité réelle, pas de pacotille. Mais c'est en Argentine que l'on se rend avec notre correspondant Théo Conscience. Théo, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
En Argentine, où cette journée se déroule dans un contexte de résistance marqué par les attaques à répétition du président Javier Milei contre le mouvement féministe. Théo, vous êtes devant le congrès à Buenos Aires, là où la manifestation s'apprête à commencer.
Oui, le cortège devrait s'élancer d'ici quelques minutes. Il y a déjà beaucoup de monde ici devant le congrès où ont été installés des centaines de paires de chaussures de couleur violette, des paires de chaussures qui ont appartenu à des victimes de féminicides. La couleur violette partout dans la foule, donc, mais aussi la couleur verte, la couleur de la lutte pour le droit à l'avortement qui a été votée fin 2020 ici en Argentine et qui est aujourd'hui remis en question par le président Javier Milei. Pour l'instant, le président argentin n'a pas encore essayé de faire abroger la loi sur l'IVG, mais en revanche, il a totalement suspendu l'achat et la distribution de médicaments abortifs, une manière de remettre de facto en cause l'accès à l'avortement sur tout le territoire. C'est donc pour défendre ce droit que les Argentines vont marcher jusqu'à la Casa Rosa, le palais présidentiel aujourd'hui, mais aussi pour défendre d'autres acquis, car Javier Milei a aussi démantelé le plan de prévention des grossesses non désirées chez les adolescentes et voudrait désormais retirer la figure du féminicide du code pénal argentin. Autant de raisons qui poussent les Argentines une nouvelle fois dans la rue, car l'une d'entre elles me rappelait ça tout à l'heure, c'est dans la rue, c'est en occupant l'espace public qu'elles ont réussi à conquérir les droits qui sont aujourd'hui attaqués.
Merci Théo Conscience en direct de Buenos Aires. Dans l'ouest de la Syrie, 532 civils alaouites ont été tués depuis jeudi par les forces de sécurité syriennes et leurs alliés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et ce, alors que le nouveau gouvernement combat des fidèles du président déchu Bachar al-Assad. Les autorités syriennes affirment œuvrer à ramener l'ordre dans la région ancien bastion de Bachar al-Assad et de la minorité musulmane alaouite dont est issu le clan Assad. Le spécialiste de la Syrie, Thomas Pierret, y voit surtout une fragilité du pouvoir syrien.
Le défi, il est moins le défi strictement militaire que représentent ces insurgés, parce que on voit quand même que, en tout cas dans les villes, sur les axes routiers, les bases militaires, on a l'impression que les forces du gouvernement reprennent assez rapidement le contrôle. Ce qui est beaucoup plus grave et inquiétant, ce sont les représailles contre les civils alaouites qui ont lieu dans plusieurs villages et qui semblent continuer aujourd'hui, notamment dans la ville de Banias, qui mène à des morts de très nombreux civils et qui, par ailleurs, pourraient fournir à ces insurgés issus des forces de l'ancien régime le soutien populaire dont ils manquaient jusqu'à présent. Parce que je pense que tout semble indiquer que la majorité de la population dans les régions alaouites ne voulait pas repartir dans un cycle de guerre et de représailles, mais si maintenant elle est confrontée à des exactions grande ampleur et des massacres, évidemment on peut imaginer que cette insurrection alaouite pourrait mobiliser beaucoup plus facilement.
Thomas Pierret, joint par Elisa Robuchon. La Russie revendique ce samedi la reprise de 3 villages dans la région de Koursk. Un nouveau revers pour l'Ukraine alors que la perspective de pourparlers semble se renforcer. Car Kiev espère utiliser comme monnaie d'échange les territoires conquis l'été dernier dans cette région russe, mais plus des 2/3 ont déjà été récupérés par Moscou. Quant au territoire ukrainien, cette fois, il a de nouveau essuyé la nuit dernière de nombreuses frappes qui ont fait une 15aine de morts. l'Ukraine, un conflit qu'en Italie, Matteo Salvini tente d'utiliser pour rassembler autour de lui celui qui est non seulement le chef de la Ligue, parti d'extrême droite, mais aussi numéro 2 du gouvernement, embarrasse de plus en plus la majorité dirigée par Giorgia Meloni pour cause de déclarations pro-Trump et pro-Poutine et donc contre le plan réarmer l'Europe. Les explications à Rome d'Anne Lenir.
Ce week-end, Matteo Salvini avait l'ambition de mobiliser dans des points de rencontre de nombreux sympathisants adhérant à sa vision de la paix en Ukraine, qui n'est autre que celle de Donald Trump, et à son opposition aux dépenses en armement. Depuis ces derniers jours, il n'a cessé d'exprimer sa stupeur face au fait, je cite, que l'on puisse soudainement investir 800 milliards d'euros dans des armes, alors que l'Italie n'a pas pu s'endetter en faveur de l'éducation, de la santé ou des petites entreprises. Mais ces appels au rassemblement sont restés vains ce samedi dans la plupart des villes, dont Rome. Cependant, à force de jeter de l'huile sur le feu, notamment en qualifiant de fou le président Emmanuel Macron, le leader de la Ligue rend la situation délicate pour la première ministre Giorgia Meloni, laquelle s'est finalement positionnée en faveur du plan de défense européen. Heureusement pour elle, son autre allié, le chef de la diplomatie et de Forza Italia, Antonio Tajani, soutient cette ligne avec conviction. Anne Lenir, Rome, RFI.
En Allemagne, on se dirige vers un nouveau gouvernement de coalition. Les conservateurs du futur chancelier Friedrich Merz, arrivé en tête des dernières élections, ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord de principe avec les sociaux-démocrates du SPD, le centre-gauche. La semaine prochaine, ce sont les négociations détaillées qui doivent commencer. Des discussions en tout cas très suivies par les voisins européens de l'Allemagne, qui souhaitent que le pays joue un rôle plus important en matière de sécurité et de défense. Le continent se mobilise pour réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. De fait, parmi les points d'accord, on note des investissements massifs dans l'armement, mais aussi un net durcissement de la politique migratoire. Friedrich Merz.
Nous procéderons également, en coordination avec nos voisins européens, au rejet des demandes d'asile à nos frontières communes. Nous voulons prendre toutes les mesures constitutionnelles pour réduire l'immigration irrégulière dans son ensemble. Nous allons étendre massivement les contrôles aux frontières dès le premier jour de notre gouvernement commun.
Le futur chancelier allemand Friedrich Merz. Yoon Suk-yeol, remis en liberté, le président sud-coréen est sorti de prison aujourd'hui après l'annulation par le tribunal de son arrestation pour des raisons de procédure. Une décision critiquée par l'opposition, mais le chef de l'État fait toujours l'objet d'une enquête et risque toujours d'être démis de ses fonctions. Yoon Suk-yeol avait plongé la Corée du Sud dans le chaos en décembre dernier en proclamant la loi martiale et en envoyant l'armée au Parlement pour le faire taire. RFI 20h08 à Paris. En France, Richard Ferrand prend ce samedi ses fonctions à la tête du Conseil constitutionnel, 2 semaines après avoir été choisi de justesse par les parlementaires et au lendemain de sa prestation de serment. Pour l'ancien président de l'Assemblée, cela va commencer très fort, puisque sa première décision concerne indirectement l'avenir politique de Marine Le Pen. Victorien Villaume.
Richard Ferrand va devoir trancher la question suivante. Un élu, un maire par exemple, condamné par la justice, peut-il devenir inéligible immédiatement, même s'il fait appel de sa condamnation? C'est un élu de Mayotte qui a saisi les sages sur cette question, condamné récemment à une peine d'inéligibilité avec ce qu'on appelle une exécution immédiate. Il veut obtenir l'invalidation de cette décision. Et si cela paraît complètement détaché de la chef de file du Rassemblement National, eh bien souvenez-vous, Marine Le Pen pourrait elle aussi, à la fin du mois, être condamnée à cette même peine. En fonction de la décision du Conseil constitutionnel pour l'élu mahorais, cela pourrait donc faire jurisprudence pour Marine Le Pen et donc au final l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2027. Des responsables politiques de gauche et de droite accusent d'ailleurs le Rassemblement National d'avoir scellé un pacte secret avec Richard Ferrand. Il y a 2 semaines, c'est grâce à l'abstention des députés d'extrême droite qu'il avait pu obtenir la présidence du Conseil constitutionnel.
Victorien Villaume, autre dossier que va devoir gérer le Conseil constitutionnel et donc Richard Ferrand, la loi d'orientation agricole. Les sages ont été saisis par des députés de gauche qui estiment que la loi qui vient d'être adoptée ne respecte pas la charte de l'environnement. Du sport, en rugby, la France a triomphé de l'Irlande à Dublin sur le score de 42 à 27. Et ce, malgré la perte de son capitaine Antoine Dupont, blessé au genou dès la 29e minute. La France passe donc à la première place du tournoi destination. Prochain adversaire, l'Écosse, ce sera la semaine prochaine. RFI 20h10 à Paris, prochain journal dans 50 minutes.